Bonjour, nous sommes au milieu du mois de juin. Les écoliers rendent leurs livres, les jeux de société ont enfin leur heure de gloire à l'école, les joueurs préparent leurs valises pour jouer pendant les vacances, mais nous, à Proxy Jeux, on travaille encore. C'est Stéphane. Je suis à Toulon avec Pascal qui est à Metz. Et à Metz, il y a une cathédrale, d'où Pascal Notre-Dame de Metz. Bravo. Ça, c'est l'humour dédicacé à Dédé Schutz. Bon, maintenant, on est tranquille, on a fait notre vanne, donc un peu de sérieux, parce que un crime a été commis. Car aujourd'hui, je suis donc avec Pascal Notre-Dame, auteur de jeu. Pascal, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Pascal, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as ton dernier projet, Le Cri de Rosemary, qui est en cours de financement sur Ulule. Et Le Cri de Rosemary, ben, c'est quoi alors, Pascal ?
Alors, Le Cri de Rosemary, c'est mon dernier jeu. Ça se passe en 1914, à Paris. C'est un livre-jeu, un livre d'enquête avec une redoutable énigme à l'intérieur.
Mon Dieu, ça fait peur dit comme ça.
Ça n'en reste pas moins un jeu, je pense, très accessible, quoi.
D'accord. On va reparler de tout ça, mais d'abord, on va te présenter. Alors, qu'est-ce que tu fais comme métier ?
Eh bien, moi, j'ai une boutique de jeux à Metz, donc tout près de la cathédrale. Et depuis une bonne dizaine d'années, j'ai débuté en 2004 cette boutique qui s'appelait Petit Joueur. En 2013, la boutique Petit Joueur s'est arrêtée, en fait, pour que je m'associe avec un concurrent de l'époque qui s'appelait Petit Peuple. Donc aujourd'hui, je travaille, je gère la boutique Petit Peuple, toujours à Metz. Et Petit Joueur est resté, mais sous la forme d'édition de jeux de société. Donc Le Cri de Rosemary, c'est mon troisième jeu en cours.
D'accord, donc tu as fusionné, tu as fait la World Company, boutique de jeux à Metz.
Exactement. Faut dire que Petit Peuple et moi, on s'entendait bien, on travaillait en coulisses un peu ensemble aussi, parfois pour la gestion des stocks.
On veut pas savoir ce que vous faites tous les deux en coulisses.
Moi, je garde ça Metz. Sous silence.
Donc effectivement, oui, c'est pas ton premier jeu. En fait, il y en a deux autres.
Exactement. Le tout premier, Jack Bananas. Une course d'avion un peu délirante, jeu de bluff, il faut aimer les jeux un peu vachards parce qu'il y a pas mal de coups fourrés à faire aux autres joueurs durant la partie. Et le second jeu, jeu de cartes, oui. Plus tactique pourtant, petite parodie du monde de l'art où chacun est à la tête d'une galerie d'art. Il va falloir boursicoter un petit peu sur la cote des artistes pour acheter, revendre au meilleur prix leur œuvre pour faire des expositions.
D'accord. Comment ça s'appelait ? C'est Beautiful. Hein.
Beautiful.
Voilà. Alors, t'as quel âge en fait, Pascal ?
38 ans.
Est-ce que tu as commencé à jouer il y a longtemps ? J'imagine que si tu as une boutique, comment t'es venu en fait au jeu ?
Assez tôt, je suis tombé dans la marmite, je crois. Comme beaucoup de monde de mon âge, je pense avoir débuté avec le livre dont vous êtes le héros, le solitaire et autres. Jusqu'à ce que mon frère reçoive un jour une boîte rouge, Donjons et Dragons. Alors c'était pour lui, mais je crois que je lui ai littéralement volé le jeu, quoi. Ça m'a vraiment ouvert tout un pan d'imagination. Du coup, il a vite récupéré sa boîte et moi, j'en voulais une à tout prix et ça a été l'appel de Cthulhu. Le jeu d'investigation, j'ai adoré ça. J'ai continué avec les jeux de rôle, Maléfice, Rêve de Dragon, tout ça.
J'ai déjà une petite question en fait à ce niveau-là. Est-ce que quand tu jouais à Maléfice et à Cthulhu, tu créais déjà des scénarios ou tu prenais ce qui était dans les
Alors,
boîtes ?
Alors, je prenais un peu ce qu'il y avait dans les boîtes dans un premier temps, mais j'ai très vite bifurqué sur mes propres créations puisque j'adorais être maître du jeu. Du coup, ça me prenait beaucoup de temps par contre.
Ah oui, ça, dès qu'on crée soi-même, ça prend du temps.
Ah oui, complètement. J'aimais bien quand même, parce que j'étais assez jeune, ça me rassurait dans un premier temps d'avoir les intrigues déjà toutes faites. Et puis surtout, j'étais, rien que pour Maléfice, j'étais amoureux des titres de leurs scénarios. La musique adoucit les meurtres, le dompteur de volcan. Bon, c'est vrai que c'était bien fichu. Très vite, mes joueurs partaient un peu dans tous les sens et ça m'a très vite obligé à improviser et ensuite à écrire mes propres scénarios pour essayer d'avoir des choses un peu plus larges.
Très bien. Est-ce que tu as commencé également, alors c'était un peu la même époque, à faire du jeu vidéo et à quel moment aussi as-tu basculé un petit peu vers le jeu de société ?
Alors, les jeux vidéo, j'en ai fait. J'adorais la Super Nintendo. Pour moi, c'était un peu mon âge d'or des jeux vidéo. J'ai un peu arrêté actuellement, même si parfois je m'amuse toujours sur mes émulateurs de vieilles consoles. Moi, quand on me dit Zelda 3, Super Metroid, choses comme ça, j'adore ça. Parfois, il m'arrive même d'y jouer un petit peu. Et sinon, j'ai bifurqué un peu plus tardivement pourtant sur le jeu de société, parce que j'adorais vraiment tout ce qui était jeu à base d'imagination, les univers un peu ouverts, et le jeu de rôle s'y prêtait totalement. À Noël, une fois, on m'a prêté un jeu que toi, tu connais très très bien. Donc, c'était un classeur blanc-beige qui s'appelait Sherlock Holmes Détective Conseil. Je crois même que c'était plus Détective Conseil à l'époque que Sherlock Holmes.
Ouais, je crois que c'était marqué en gros Détective Conseil. Je sais pas, parce que moi, à l'époque, je le connaissais pas du tout, en fait. Moi, je suis venu avec la réédition d'Istari en 2011. Je suis arrivé un peu trop tard, en fait.
Moi, je pense avoir reçu ce jeu... Alors, il m'avait captivé, parce que encore une fois, bon, ça pouvait se jouer tout seul, ces énigmes, des questions à répondre et autres. Je pense avoir été un peu trop jeune au moment où je l'ai reçu, parce que, mis à part deux, trois intrigues, les débuts sur les lions là, et autres, je m'en sortais, mais après, très vite, le soldat de plomb ou autre, je pataugeais royalement.
Oui.
Et pourtant, ça a été une grosse découverte. Si on met l'appel de Cthulhu, Maléfice et Détective Conseil, c'est vraiment les trois jeux qui m'ont harponné et qui m'ont lentement dirigé vers ce milieu du jeu qui sortait un peu de l'ordinaire. Parce que moi, mes amis, quand je leur parlais de Détective Conseil, ils me regardaient avec des gros yeux tout ronds et ils ne connaissaient pas. Et c'est à partir de Détective Conseil que je me suis mis à fréquenter vraiment les boutiques de jeux de rôle.
Oui.
Sur Metz.
Faut dire qu'à l'époque, moi, ça me faisait ça aussi quand je jouais à L'Œil Noir et qu'effectivement, je collectionnais les livres dont vous êtes le héros. Les gens, aujourd'hui, ne se rendent pas compte, mais la culture, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek, la culture de l'imaginaire, n'était pas du tout mainstream. On passait un petit peu pour des gens bizarres quand on demandait. Moi, je me rappelle avoir été commandé au libraire de ma petite ville de province des livres dont vous êtes le héros. Tu passais un petit peu pour quelqu'un de bizarre quand tu commandais ce genre de titres avec les couvertures de fantasy, etc. C'était pas du tout dans les mœurs.
Ah ben complètement, parce que moi ensuite, quand je demandais des choses comme ceci autour de moi, les anniversaires et autres, encore une fois, les gens ne comprenaient même pas ce dont je parlais, quoi. Alors quand sur Metz, mon frère m'a appris l'existence d'Excalibur, première boutique un peu ancestrale sur Metz qui n'existe plus aujourd'hui, ça a été tout un monde qui s'ouvrait à moi, parce que j'avais même pas accès à l'époque au Casus Belli et autres. Et tout d'un coup, je mets le pied dans une boutique où il y avait que ça, du sol au plafond. Je me suis dit, mais c'est le paradis, quoi. Et là, c'était parti, quoi.
C'est le paradis, ouais.
D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que cette personne, elle m'a pas reconnu, mais c'est vrai que quand il a fermé boutique bien après, quand moi j'ai ouvert boutique, c'est devenu l'un de mes clients.
Bah ça, c'est drôle.
Et j'ai eu l'impression, c'est vrai,
c'est bien.
D'avoir fait la boucle, quoi.
Ça, c'est une bonne façon de faire. C'est de là où t'as acheté des jeux avant, tu récupères le mec comme client. C'est pas mal. C'est amusant.
C'est moi qui l'ai provisionné après.
Moi, je voulais dire aussi quelque chose sur la difficulté des jeux. Tout à l'heure, tu as parlé de Sherlock Holmes Detective Conseil de l'époque, qui est des années 80, qui était effectivement un jeu difficile. Parce que c'est vrai, on oublie, mais il a été réécrit très légèrement, en plus d'être réédité par Istari. Et en fait, je crois que ce qu'on oublie aussi, et moi je m'en rappelle notamment par rapport aux jeux vidéo et aux jeux d'aventure qu'on pouvait prendre, c'est que c'était extrêmement difficile. On avait des jeux extrêmement punitifs et extrêmement difficiles.
Oui. Alors, que ce soit en jeu de société même ou en jeu vidéo. Hein. Sur mes émulateurs d'aujourd'hui, quand je ressors des vieux jeux où il fallait sauvegarder, on avait le droit à une sauvegarde tous les je ne sais combien de temps, et si on mourait, il fallait reprendre le jeu, quoi.
Tout à fait. Moi, je me rappelle de jeux d'aventure texte où il fallait vraiment se creuser la tête pour savoir quelle phrase rentrait pour que le personnage, je sais pas, prenne un bâton ou fasse un petit montage dans le jeu. Alors maintenant, avec la souris et tout ça, il y a des interfaces, des bulles d'aide de partout, mais je me rappelle qu'on se creusait la tête des fois parce que le programmeur avait prévu tel verbe et pas tel autre. Il fallait vraiment
se mettre dans la tête de la personne, quoi. Oui, effectivement.
Presque essayer tous les synonymes pour arriver à déverrouiller des fois des situations, quoi. Puis il n'y avait pas Internet pour poser des questions, donc on se débrouillait. Puis de temps en temps, quand on avait marre, on finissait par craquer puis regarder la solution dans un magazine quelconque.
Alors moi, pour les jeux vidéo d'aujourd'hui, en toute franchise, j'ai pas assez de recul parce que ça fait un bon moment que j'ai plus ces consoles-là. Souvent, je prends plaisir chez des amis et à regarder, à participer quand même, et eux me disent que oui, quand même ils ressentent le fait qu'aujourd'hui le joueur est plus aidé qu'auparavant, donc je pense que c'est le cas. Et même pour les jeux de société, j'ai pas forcément donc les titres en tête, les jeux de société que je faisais enfant, je me souviens que c'était forcément que des jeux qui duraient des heures et des heures. Attention, je parle là des jeux qui sortaient des boutiques justement de jeux spécialisés. Il y avait les suprématies, j'avais joué à Diplomatie enfant, la partie durait des journées, c'était juste énorme. Et dans certains jeux de l'époque, il était fréquent qu'on perdait un ou deux joueurs en cours de route. Le jeu n'était pas conçu pour que tout le monde joue jusqu'à la fin.
Oui, c'est vrai, c'était des jeux où on pouvait réellement perdre et être exclu de la partie, ce qui paraît complètement inconcevable.
Aujourd'hui, c'est très risqué pour un, ce serait très risqué pour un éditeur de faire ceci, parce que effectivement, c'est plus du tout dans les mœurs. Je me souviens que fut un temps était sorti un jeu qui s'appelait Britannia et qui avait un peu changé la donne, parce qu'on jouait plusieurs peuples sur toute l'histoire de la Bretagne, et si on perdait un peuple, c'est pas grave, parce que le tour suivant, on en récupérait un nouveau qui prolongeait l'histoire.
En effet. Voilà. Moi, je crois qu'on a, on a vu le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu vidéo. Il y a peut-être aussi des univers dans des livres qui t'auraient marqué à l'époque.
Je crois que je vais faire dans le très classique, hein, parce que quand j'étais ado, oui, c'était Tolkien, évidemment, la Terre du Milieu. Sur le côté miroir aussi, avec les jeunes royaumes de Morcoc, c'est un peu les deux univers qui ont façonné ma vision héroïque fantasy du jeu de rôle. Cinéma et autres, la première trilogie de Star Wars et Indiana Jones. Quand j'ai vu ça au cinéma, c'était quasiment peut-être les premiers films que je voyais au cinéma. Mais quelle claque, c'était juste énormissime. Et en série télé, alors j'ai le souvenir d'excellentes soirées familiales parce que c'était la série préférée de mon père, c'était Columbo. Ça a peut-être un peu vieilli aujourd'hui, mais je trouvais ça super, le personnage, les intrigues, la manie du détail et autres.
Ah, mais ça n'a pas vieilli, en fait. Ça n'a pas pris une ride, en fait. C'est toujours des excellents.
Ça passe toujours à la télé en ce moment.
Excellent narration. Oui, ça passe à rediffuser généralement sur les chaînes du câble, sur des chaînes comme Brest TV ou des choses comme ça. Et en fait, moi, je regarde aussi. Je suis toujours rappelé parce que c'est quand même une image... très années 80, une image 4:3 et des grosses bandes noires partout, c'est de la basse définition, du son mono, etc. Et en fait, on s'en fout.
Voilà.
On est complètement, à chaque fois, on est happé par l'histoire et par le jeu de l'acteur.
Folk, incroyable. Et puis la dernière fois encore, c'est récemment, j'ai vu le tout premier épisode, j'ai trouvé ça fascinant, c'est que dès le premier épisode, il avait le personnage en main. Tout y était, quoi, ses manies, ses répliques, bien travaillées en amont, je pense.
Je pense qu'il y a une qualité d'écriture qui est effectivement considérable. Mmh. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quel que soit le média, c'est la qualité d'écriture et de scénario derrière qui fait le fait que ça perdure, en fait, quel que soit le support. C'est-à-dire qu'effectivement, techniquement, Columbo est dépassé, mais en fait, les intrigues sont tellement bien, le personnage dans le protagoniste est tellement bien, et les antagonistes aussi sont tellement fabuleux avec tous ces rôles généralement d'acteurs connus. En plus, j'en ai revu un, il y avait l'acteur de Monsieur Solo, des agents très spéciaux, qui jouait le méchant. Je crois qu'il en a fait au moins plusieurs épisodes où à chaque fois, il est un assassin différent. Et là, ce qui est frappant aussi dans Columbo, c'est que les rôles d'antagonistes, donc les rôles de suspects, de meurtriers, etc., que Columbo arrive à coincer, sont aussi de grands rôles joués par des grands noms du cinéma ou des séries.
Complètement, et puis il y avait vraiment un vis-à-vis entre le héros, entre guillemets, et le méchant, entre guillemets, parce que... je pense que bien souvent, dans beaucoup d'épisodes, les deux se respectent.
Ah, il y a un jeu du chat et de la souris qui est assez fabuleux. Oui, tout à fait. Et on en revient donc à l'écriture. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, je voulais juste savoir comment t'es venu, à quel moment tu es venu. D'abord, l'envie de créer ta boutique de jeux et d'en vivre. Et ensuite, on parlera de l'envie de créer ce coup-ci, non pas de jouer, de créer des jeux. Alors d'abord, la boutique, comment ça t'est arrivé finalement de vivre du jeu ?
Alors en fait, la boutique... je pense que la passion du jouet a beaucoup joué, justement, la passion du jeu, mais indirectement, parce que c'était un peu plus pragmatique pour la boutique. Je pense que j'ai abandonné à tort mes études un peu trop tôt, et je me suis retrouvé assez vite, après le bac, à faire des boulots alimentaires. Et au bout d'un moment, j'ai senti que je mettais le doigt dans un engrenage qui n'allait pas me plaire du tout, et quand on m'a proposé un CDI en usine, j'ai dit stop, j'ai dit non. J'avais économisé pas mal d'argent. Il y avait une décision à prendre. C'était soit je reprenais mes études, ou soit je me lançais dans la création d'entreprise. En me lançant dans la création d'entreprise, donc j'ai choisi cette optique-là, je me suis dit dans quel domaine.
Mais t'avais pas d'expérience, enfin, t'avais jamais fait d'études de gestion ni rien, quoi.
Non, je suis vraiment parti à l'aventure.
Au trip.
Ça m'a pénalisé dans certains points.
On est dans quelle année là? On est dans quelle période?
Alors, tous ces petits boulots se sont faits entre 2000 et 2004. Et en 2004, j'ai monté donc Petit Joueur, la boutique à Metz. Il m'avait semblé évident au moment de réfléchir que ce serait dans le milieu du jeu. Et ce qui m'avait semblé le plus accessible à l'époque, c'était la vente, puisque dans mes petits boulots, j'avais une expérience de vente, je m'en sortais pas trop mal. Et du coup, c'est comme ça qu'est né un peu précipitamment Petit Joueur, la boutique de jeu. Bien m'en a pris parce que ça m'a plu tout de suite. Et c'est seulement un petit peu plus tard que j'avais envie de...
Oui.
D'explorer de nouveaux champs dans le milieu du jeu. Page, écrire, la feuille blanche, tout ça, ça me manquait un petit peu. Parce que autant j'adorais la boutique, le relationnel et tout ça, il manquait dans la gestion de la boutique le petit côté créatif. Ça m'a manqué beaucoup et assez vite. Il m'a fallu quelques années pour que ça prenne forme. Et du coup, aux alentours de 2009-2010, je me suis mis à réfléchir à la conversion de la boutique. Donc la conversion s'est faite en 2013 quand j'ai arrêté, et Jack Bananas qui est sorti un an avant, en 2012.
D'accord. Mais tu continues donc d'avoir une boutique, mais c'est celle de quelqu'un d'autre où vous avez un peu fusionné, hein, c'est ça ce qu'on a dit?
Oui, nous sommes associés. D'accord. Je la gère au quotidien, les stocks et autres. Quoi.
On va redire ce que c'est d'ailleurs, on va dire où elle est même.
Ah ben écoute, c'est Petit Peuple, 7 rue Sainte-Marie à Metz, et tout, c'est dans le centre-ville et dans le quartier cathédrale.
Bah, tu sais que je suis passé pas loin devant à vélo il n'y a pas très longtemps, parce que mon acolyte Stéphane Cyrulic de Proxy Jeux est un messois, donc en fait il m'a emmené. En fait on a failli venir te voir, mais c'est juste qu'on était un peu pressé par le temps et qu'on était à vélo. En fait c'est marrant les coïncidences, parce que j'étais venu le voir juste avant le week-end Proxy Jeux. Voilà, donc je vois très bien l'entrée à partir de la rue, de la petite rue piétonne. Il faut passer un petit passage pour aller. Ah là là. Par contre, il y a un gap entre créer des jeux, c'est-à-dire se mettre à la création, et puis avoir aussi l'envie de l'éditer soi-même. Alors comment ça s'est passé ça? Pourquoi? Parce que tu aurais pu proposer tes jeux à des éditeurs.
Alors l'éditer soi-même, c'est que je pense que la boutique m'a appris une chose, c'est que la création d'entreprise m'a beaucoup plu. Tirer les ficelles et autres. Voilà, j'aime bien être dans les coulisses. J'aime bien mettre mes mains dans le cambouis et partir d'une feuille blanche, porter le projet, réunir une équipe, tout ça. Non pas par nécessité, mais ça faisait partie de mon plaisir.
Tu aimes bien travailler avec les autres, motiver une équipe, enfin solliciter des gens qui ont des compétences différentes et puis faire un truc ensemble.
Complètement. J'ai pris ça comme un défi. Il y a eu un apprentissage, encore une fois, un peu sur le tas, parce que c'est vrai que autant dans le magasin, quand je gérais avec d'autres personnes, je manageais des tâches que je savais faire. J'avais un esprit critique dessus. Autant là, par contre, dans la création de jeux, l'édition même, à proprement parler, ça s'est avéré un peu plus compliqué tout au début, parce que je devais m'entourer, manager des personnes dont je ne maîtrisais absolument pas les compétences. Le dessin, la mise en page, l'informatique et autres. Du coup, là, ça a été un apprentissage que je pensais que ça aurait été plus facile, et il m'a fallu un jeu pour m'adapter.
Bien, bah je crois qu'on a vu un petit peu ton parcours, etc. Que tu viens de le dire, l'expérience que tu en tirais. Si c'était à refaire, tu referais pareil ou...
Alors, le refaire absolument, puisque je me suis bien amusé au final. J'ai trouvé ça très enrichissant, très excitant aussi. Qu'est-ce qu'il y aura à refaire? Je pense que pour mes premiers jeux, j'ai complètement sous-estimé l'importance de la communication. Et je pense que la façon dont on en parle et autres est tout aussi importante aujourd'hui, commercialement parlant, dans les ventes, que le produit en lui-même.
Oui, en fait, on vit dans une époque où malheureusement, un bon produit ne se suffit pas à lui-même. Quoi. Il faut aussi réussir à attirer l'attention sur soi. Quoi.
Exactement. Quand je vois, admettons, Jack et Beautiful, les retours que j'ai partout sont vraiment excellent, mais par exemple pour Beautiful, on peut dire que j'ai raté le coche de la communication, et pourtant c'était le deuxième jeu quand même. Le premier jeu, j'ai appris, je me suis focalisé sur le travail éditorial, que j'ai parfaitement mis en œuvre pour Beautiful, mais j'ai sous-estimé l'aspect communication. Et du coup, c'est pour ça qu'à présent, pour le troisième jeu, ben j'ai l'expérience pour l'édition. Du coup, je suis assez content de la manière, de l'aspect éditorial du jeu. Mais il est très important à présent de bien orchestrer la communication, ben d'où Ulule, qui fait aujourd'hui aussi partie de la communication, c'est une première étape. Et il y a aussi ben, cette interview dont je te remercie de me l'avoir proposée. Et voilà, c'est...
Oui, ce qui devient quand même compliqué aussi pour les auteurs, parce que du coup, faut vraiment... Déjà, auteur de jeu, c'est déjà être assez multicasquette, un peu d'écriture, puisque là, en plus, on parle de jeu narratif. Et si en plus, il faut faire de la com, il faut s'éditer soi-même, donc maîtriser des process de fabrication, de PAO, etc., je trouve que bon, ça devient complet, c'est intéressant, mais ça fait aussi demander beaucoup à un auteur.
Énormément. Pour des raisons d'envie et puis de budget et autres, je me suis focalisé sur mes propres créations. À l'avenir, pourquoi pas en proposer d'autres. Avoir toutes les casquettes et tout faire bien, je suis très content d'avoir pu m'entourer de personnes super compétentes, chacun dans son domaine. Ce qui est difficile aussi, c'est la tenue de la boutique, parce que écrire, éditer et gérer la boutique à côté, c'est très gourmand en temps.
Ça fait des grosses journées. Donc on va venir justement à la genèse et à l'écriture du cri de Rosemary. Donc déjà, comment c'est né? Quel a été le déclic?
Alors le déclic de 2009 à 2013, j'étais à fond dans mes deux premiers jeux. Et ensuite, comme j'avais la boutique à côté, j'ai voulu souffler un petit peu. Je me suis dit, bon, le troisième, on va pas le faire tout de suite. Et en 2014, c'était le centenaire de 1914. La Première Guerre mondiale. C'était partout dans les infos, partout autour de nous. Metz, une ville de garnison qui a participé de plein fouet dans cette guerre-ci. Je pense que c'est cette date-là, 1914, les événements et le centenaire, qui ont été les premières pierres du cri de...
Ah d'accord.
De Rosemary.
D'accord, mais bon, à partir de la guerre de 14, t'aurais très bien pu faire un wargame ou un duel
d'avion. Exactement.
Pourquoi tout d'un coup l'intrigue policière?
Alors, ensuite, il y a eu un roman que j'ai beaucoup aimé de Pierre Lemaitre et qui est Au revoir là-haut, qui se passe à la même époque. Et donc, le côté littéraire m'a beaucoup plu. Ça correspond aussi à une époque où, il y a 2-3 ans, j'ai voulu reprendre les jeux de rôle un petit peu, continuer une collection, mais je n'y joue absolument plus. J'ai pas mal de joueurs dans mon groupe de joueurs qui ne le connaissent pas, et j'ai été tenté de leur faire découvrir ceci. Et au début, je voulais leur faire une petite intrigue du genre Maléfice, parce que c'est un jeu à un mécanisme assez simple, et je me suis mis à écrire un scénario pour ce jeu-là.
Qui se passait déjà en 14?
En 1914.
D'accord. Et donc, c'est parti en fait d'un scénario de jeu de rôle en disant « je vais faire jouer mes copains
carrément
à du jeu
voilà
de rôle ».
Et très puis... vite, l'histoire m'a pas mal botté, happé, et mine de rien, très vite, c'est représenté l'envie de repartir à l'assaut pour un nouveau jeu. Autant dans quelques mois avant, je me disais, je voulais souffler un petit peu, mais là, quand j'ai eu le matériel entre les mains, le personnage, le lieu, l'époque, l'intrigue, je me suis dit, c'est bon, j'ai le matériel, je suis chaud, je vois ce que ça pourrait donner.
c'est reparti pour un tour,
comme tu dis.
J'ai une question, donc c'est venu, donc on comprend bien du contexte historique. Est-ce que tu, finalement, vous l'avez joué, ce scénario de jeu
de rôle? Eh ben non. Non.
Donc c'est la basculé. Ça a basculé comme un jeu d'énigmes, mais finalement, du coup, tes copains, ils attendent toujours
ils attendent
ton scénario,
toujours mon scénario, mais ils vont pouvoir l'attendre parce que le hic, quand il a fallu tester le jeu, eh ben évidemment, j'ai fait appel à un groupe d'amis de grande confiance. Ils ont eu le scénario en main, mais c'était pas en version jeu de rôle, différemment.
Pas en version jeu de rôle, d'accord. Je pense qu'on a bien compris comment c'est né et comment ça a évolué. Alors, on a pas mal parlé de séries policières, etc., de qualité de scénario. Est-ce que, à un moment donné, s'est posé, notamment lors de la création, l'envie de recourir à des méthodes, à des cours d'écriture ou de scénarisation? Est-ce que tu as senti, à un moment donné, que tu avais peut-être des petits combles ou des petits manques? Et puis, est-ce que tu t'es tourné vers des cours ou vers quelque chose pour t'aider à écrire?
Non. Était-ce une erreur ou pas? Je ne sais pas. En toute franchise, je ne crois pas, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir fait une partie de ce travail plus tôt dans mes études. J'ai fait des études littéraires. Et à côté de ça, je participais déjà à des ateliers d'écriture. J'ai toujours aimé écrire. Ça a été un travail continuel. J'ai vraiment l'impression d'avoir écrit depuis très très longtemps auprès de personnes qui m'ont enseigné des petits trucs. Ce qui fait que non. Puis j'avais même un logiciel, ça s'appelle StoryMill, dont je me sers parfois pour écrire des nouvelles. Et c'est vrai que même là, il m'a servi pour mettre en forme un peu l'intrigue, les personnages, le déroulement du temps, des actions et autres.
Comment ça s'appelle? Tu as dit StoryMill, le moulin à histoire?
Voilà, exactement.
D'accord. Comment tu as trouvé le temps ou peut-être même le lieu pour écrire? Je crois que c'est né en face de ta boutique.
Exactement. C'est un petit café-bar très sympa où j'ai mes habitudes. Ça s'appelle le Casarici. C'est dans la rue Sainte-Marie à Metz aussi. Et c'est vrai que j'y ai pris mes habitudes. Je demandais souvent à mes collègues de me supplanter en journée au magasin. Je prenais mes affaires, j'allais m'installer en face. Ils ont le Wi-Fi.
T'avais ton portable, t'avais quoi? T'avais une tablette, t'avais des papiers?
Alors, beaucoup papier et ensuite informatique, mon ordinateur, internet. D'accord. Pour les recherches historiques. Et donc, j'essayais de me libérer le temps et chez moi le soir. Là-dessus, je remercie mes collègues Pierrot et Marc qui m'ont bien aidé, et Raphaël aussi et Sébastien. Mais pour écrire et l'intrigue et la rédaction...
Ah oui, non, faut être seul, faut se concentrer, oui, c'est pas possible, il y a un temps de concentration.
Voilà, exactement. Il y a un temps de concentration et être entrecoupé toutes les 10 minutes pour un emballage cadeau, un appel téléphonique ou des conseils, c'était ingérable.
Voilà. Est-ce que tu t'es posé des questions à un moment donné de savoir sous quel format ça allait être? À quel moment est-ce que tu t'es dit, bon, on va en faire un livre et pas, par exemple, justement, on a évoqué le classeur de la première édition de Détective Conseil. Ça aurait pu très bien être aussi, un système d'indices dispersés, de feuilles volantes, facsimilés, comme on fait des fois. À quel moment est-ce que tu as commencé à figer, en fait, la forme qu'allait
prendre? Alors, Stéphane, assez tôt, en fait, j'avais déjà un petit peu une habitude éditoriale avec les deux premiers jeux. Et j'ai tout de suite compris dès les devis que le format livre était était financièrement plus accessible que d'autres choses. Par simplicité, le fait de pouvoir le transporter, un livre petit format, pour pouvoir y jouer dans le bus, transport en commun ou n'importe quand, pour une raison de transport, et assez vite, dans l'aspect éditorial, j'ai compris qu'il serait plus accessible financièrement.
Oui, c'est plus facile, mais en fait, c'est assez technique, c'est qu'il faut le savoir, c'est plus facile de faire un seul objet dans un livre, notamment, que de produire dans une boîte. Enfin, il y a beaucoup plus de manutention, il faut généralement faire appel en fait à des ateliers handicapés quand on veut prendre comme ça plein d'éléments imprimés différents.
Exactement.
Et les mettre dans une boîte, quoi. C'est ça le,
parce
c'est ça le problème en France.
Parce qu'il y a plein d'éléments, il peut y avoir des cartes ou des jetons ou autre, et la boîte, alors qu'un livre, plus il y aura de pages dedans, plus vous allez tirer les coups. C'est plus facile et on peut faire appel à un seul fabricant. Tout était plus simple avec le livre, et en temps et en budget.
On arrive à un livre de combien de pages à peu près?
Ce sera du 64 pages minimum. Après, ça va certainement peut-être gonfler un petit peu, mais ça ne descendra pas en dessous des 64 pages.
Voilà, et pour se représenter, donc on a plusieurs éléments. Comment ça se fait? Il y a un début d'histoire au début.
Exact.
C'est pas un livre, il n'y a rien à lire en linéaire. Ça va être quoi? Ça va être comme si on consultait un dossier de police, comme si on rouvrait des archives?
Parfaitement. Petite présentation du concept du jeu, petite explication même de la règle du jeu. Ça va tenir en quelques lignes, un petit paragraphe sur une page. Et très vite après, c'est un dossier. Chaque page va représenter différents éléments de l'intrigue. Des plans des lieux, des photos, articles de journaux, des rapports de police, des dépositions de témoins, etc. Une bonne grosse cinquantaine de documents. Et l'idée, c'est que, comme tu dis, on peut prendre le livre, le jeu, par le bout que l'on souhaite. On peut l'ouvrir à la page que l'on souhaite. On peut lire ce dossier d'une traite. On peut commencer par la fin, piocher au milieu, continuer, revenir 4 pages en arrière. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Tout au début, ce dossier est précédé d'une lettre de mission. C'est-à-dire qu'il y a une agence, l'agence Petit Joueur Détective, qui vous invite à nous aider à dénouer les fils, à ouvrir le dossier. Cette lettre de mission, c'est quand même la première chose à lire avant d'aller piocher ailleurs dans le dossier. Ça vous explique brièvement... qu'est-ce qui s'est passé, les aspects du problème, comment la police à l'époque a pu traiter l'affaire, et une liste de questions, une dizaine de questions assez précises qui vous permettra de faire le tour du problème.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'en fait il faut répondre à ces questions pour pouvoir dire, bon, j'ai à peu près fait le tour du sujet, quoi. C'est un peu comme les questions de la solution Détective Conseil, où on voit bien, rien qu'avec les questions, on sait qu'on est passé à côté. Si on commence à avoir une question alors qu'on ne s'est même pas posé cette question, c'est qu'il y a un petit problème.
Voilà, parce que je tenais quand même à ce qu'il y ait un fil rouge.
Oui, que les gens sachent à quel moment s'arrêter de chercher. Quoi.
Exact. Quand on pense qu'on a une réponse cohérente à une question et que toutes les réponses sont cohérentes entre elles, bah, c'est bingo.
Voilà.
Et on ne part pas en aveugle dans le jeu. Hein. Non, non, voilà. Mais vraiment, il y a un fil rouge.
D'ailleurs, ça répond alors à une inquiétude, enfin à des questions qui ont été posées pendant la campagne qui a lieu en ce moment. Et c'est vrai que c'est peut-être lié à la présentation, mais à la façon dont tu l'as dit. Mais c'est vrai que cette histoire de pas avoir la solution dans le livre a inquiété, il faut le dire, beaucoup de clients potentiels.
J'en suis bien conscient. L'origine de ceci, je vais faire un petit bond en arrière sur mes deux premiers jeux que j'estime être de bons jeux et de très bons jeux, mais perdus dans un océan de très bons jeux. Il y a tellement de jeux qui sortent. Après Jack, après Beautiful, je me suis dit, bon, le prochain jeu, il faut qu'il soit bon sur la forme, mais il faut prendre une prise de risque et essayer d'en faire parler, quitte à assumer ensuite les choix que l'on a fait. Et ça a été un petit peu aussi le point de départ de cette non-solution proposée à l'intérieur. Je comprends que...
Ah oui, t'as pris ça comme un parti pris délibéré pour faire parler
un petit
du
peu,
jeu.
C'est...
Et aussi comme étant un point fort.
Un
quoi,
point fort parce
qu'il
y a d'autres
d'original,
raisons
quoi.
Pour laquelle j'ai fait ça. Mais d'un point de vue éditorial, voilà, ça reste un petit axe de communication. Je sais que ça pourra intimider certains joueurs. Moi, je ne pourrais que dire, après l'avoir testé, que...
En fait, ce qu'il faut dire pour rassurer les gens, c'est que les gens, ils trouvent,
bah oui,
en fait.
Exactement.
Pas un truc,
c'est un jeu, c'est pas...
pas
fait, comme je l'expliquais quelque part sur Trick Track Road, c'est pas fait pour se casser la tête les 10 prochaines années.
C'est pas un piège.
Ce serait, c'est pas un piège.
Bah, je crois que ce que les gens effectivement ont peur, c'est qu'en fait il y a une espèce d'antécédent, mais il y a une espèce de jalon, donc comme ça dans les jeux d'énigmes, c'est, je crois que ça s'appelle la chouette d'or
de Max Valentin.
Voilà, qui malheureusement impose un problème. Je crois que c'est toujours pas trouvé, que l'auteur est mort. Enfin, j'avoue, je connais pas
très
bien
compliqué.
L'histoire.
Très compliqué. C'est vrai que moi-même, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Voilà. Il y a eu un procès. Il y a eu des interventions d'huissiers qui ont saisi l'un des trésors ou autre, et ce qui fait que ça a fait tout capoter. Ça n'a tellement rien à voir entre guillemets.
Oui, voilà.
Puisque dans un cas. C'est des choses où il fallait passer des journées ou voire des mois, des semaines entières dans des bibliothèques. Il fallait chercher dans les encyclopédies, les plans, les cartes et autres. Non, mais c'était à se casser la tête. Moi, je l'ai fait aussi, ceci. Je n'ai fait que survoler le concept. J'ai adoré. Je suivais de près d'autres personnes qui pouvaient y jouer dans ma famille. Mais c'est non. Comparer Le Cri de Rosemary à ceci, c'est pas possible. Dans Le Cri de Rosemary, tout est dans les livres, tout est dans ces 64 pages. Vous avez tout sous la main, sous les yeux, un petit peu de curiosité, un petit peu de patience, un petit peu de flair aussi, et bingo, quoi, vous trouverez la solution.
C'est pas un truc impossible avec des codes et des énigmes.
Ah non, non, non. Imaginez-vous Le Cri de Rosemary. Moi, j'ai des amis en ce moment qui lancent une escape room à Metz qui s'appelle The Box. Eh ben, imaginez-vous une sorte d'escape room sur papier. L'escape room, c'est pas prévu pour que vous y passiez les 5 prochaines années de votre vie enfermé dedans.
Enfermé avec des sandwichs passés sous la porte.
Vous y êtes pour 60 minutes, vous allez vous casser la tête et vous allez bien rigoler entre amis. Eh ben, Le Cri de Rosemary, imaginez-vous le même concept sur papier. C'est pas fait pour...
Pour durer 5 ans.
C'est
oui,
fait, voilà, c'est fait pour échanger un petit peu.
D'ailleurs, en fait, les gens auxquels tu confies le prototype ou auxquels tu as fait les tests, ils arrivent à résoudre à peu près en combien de temps, ou ils y passent quelques
Alors,
semaines.
Ils ont pas tous trouvés, mais pour certaines raisons. C'est que certains, j'ai laissé chercher. Il y en a qui cherchent toujours, d'autres ont trouvé. D'autres n'ont pas trouvé pour la simple et bonne raison que pour respecter des délais éditoriaux, pour certains d'entre eux, j'ai donné la solution pour qu'ils vérifient avec moi que chaque piste
était possible.
Était possible, avait les... pas d'erreur, pas d'incohérence dans l'histoire. Dans l'absolu, certains ont trouvé de beaux indices assez rapidement, ils étaient contents, mais pas toute l'intrigue. Ça leur a bien pris pour certains quelques semaines, voire mois, parce que ils étaient pas du tout non plus, faut dire, coutumiers de ce genre d'exercice.
Oui, genre leur vie, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, enfin, il y a une solution. Des gens ont trouvé, et c'est seulement finalement un livre de 64 pages.
Voilà. Et faut dire aussi, hein, c'est que bah déjà, j'avais à chaque fois droit au SMS quand ils trouvaient quelque chose, parce que bah mine de rien, comme il n'y a pas de solution, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'ils trouvaient quelque chose, ils avaient le moral. Ah oui, évidemment, tout ça. L'autre chose, dans ceux qui ont trouvé la solution, faut bien dire que, à partir du moment où la solution qu'ils apportent est intelligente à chaque question, et que chacune des réponses à ces 10 questions est cohérente les unes avec les autres, ils ont tout de suite compris. Ça fait tilt, ça fait bingo.
Voilà. Ça, c'était vraiment l'interrogation des gens. Mais comment je vais savoir que j'ai bien répondu? Et en fait, ce que tu dis, c'est simple, c'est qu'il y a quand même 10 questions. Et si on répond de manière cohérente à ces 10 questions,
bah,
c'est
qu'on
a tout bon.
Dans la mesure où vraiment, ça sautera aux yeux. On se dira, mais évidemment, tout est bon.
Voilà. C'est pas possible d'avoir répondu à ces 10 questions et d'être en même temps complètement dans
à
le
la
fou,
rigueur,
quoi.
Ce que j'ai bien aimé, ce que mes joueurs, mes testeurs, justement, m'ont demandé d'accentuer ou, en tout cas, de ne pas modifier, c'est que dans la lettre de mission, j'indique bien que, ben, c'est une enquête qui date d'il y a un siècle. Il y a peut-être des documents qui manquent à l'appel avec le temps qui a passé. Du coup, il y a peut-être des zones de blanc dans l'histoire qui devront être complétées avec l'imagination de chacun. Et ça, mes joueurs ont beaucoup aimé. Parce qu'au final, il s'est avéré que peut-être sur un ou deux points de l'histoire, ça ne remet pas du tout en cause la solution, la résolution de l'intrigue, mais ça peut laisser la place à de l'interprétation.
Petite part d'imagination pour
exactement.
Le joueur.
Voilà, ouais. Pourquoi, tiens, etc. Et je me suis avéré, là par contre, c'était la bonne surprise pour moi, c'est que moi-même qui suis auteur, je me suis dit, tiens, il y a d'autres interprétations et tout aussi crédibles que la mienne.
Oui, bah ça me le fait aussi sur les tests des fois de Sherlock Holmes, des Steve Conseil sur mes enquêtes. Pendant les tests, les gens inventent des choses et des fois je me dis, tiens, c'est assez marrant ça. Je pourrais presque l'utiliser, changer, remplacer ce que j'ai prévu par autre chose parce que bah, les gens ont de l'imagination.
Bah, c'est chouette hein, de redécouvrir un peu son propre jeu à travers le regard des autres qui voilà. Apporte un regard neuf, quoi.
Ok, t'as fait tester donc plein de fois, ça représente à peu près combien de tests ou combien de personnes à peu près, ou à la louche.
Une douzaine
hein.
De personnes, j'ai une douzaine de personnes, 12-15 personnes réparties un petit peu, j'ai eu des volontaires pour tenter le jeu en solo, des volontaires pour tenter le jeu en équipe, se concerter, s'échanger d'accord. Les informations, etc. Et comme ça, j'ai pu voir un petit peu de différents horizons, hein, donc pas forcément que des joueurs ou que des lecteurs ou autres. Il y a des joueurs, il y en a d'autres des lecteurs, il y en a qui sont amateurs d'intrigues policières. J'ai tenu à avoir un échantillon un petit peu représentatif. Et ensuite, pour chacun, soit en solitaire, soit en groupe et tout ça, j'ai ensuite vu avec eux la solution pour qu'ils puissent vérifier en détail. Je leur ai pas imposé la solution. Il y a eu des volontaires et puis il y en a eu d'autres qui ont voulu continuer à se creuser.
Les ménages tout seuls.
Voilà.
Okay. On va faire une petite pause. Voilà, donc on a bien parlé de la façon dont tu avais pu tester cette énigme. Alors on a les testeurs. Est-ce qu'il y a également des illustrations? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à ce projet?
Oui, mes deux premiers compères de la première heure, c'est Sophie et Silver. Alors Sophie, c'est l'illustratrice principale, c'est celle qui fait tout ce qui est très coloré dans mes jeux. Pour le cri de Rosemary, ça va être les personnages, les décors et autres. Et il y a aussi Silver, c'est à la fois mon illustrateur et mon graphiste. C'est lui qui met en page le jeu, la couverture, c'est lui qui met en valeur les dessins de Sophie. Et à côté de ça, il est aussi illustrateur dans tous mes jeux. Et dans Le Cri de Rosemary, par exemple, c'est lui qui fait les fonds des documents pour leur donner un aspect un peu vieilli.
Tout ce qui est facsimilé, sensation d'avoir des vieux papiers, etc.
Exactement. Et du coup, on a eu des bons retours là-dessus pour l'instant, le contraste entre les deux.
Oui, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. On a un petit côté un peu plus naïf, un peu à la Dixit dans les illustrations de Sophie, qui est très plaisant. puisque c'est pas sinistre, tu vois, ça pourrait être les jeux historiques, ça pourrait tomber dans l'illustration un peu trop images d'archives, noir et blanc.
Non, justement, des personnes s'interrogeaient, me disaient quand ils ont vu les premières ébauches, oula, comment vont interpréter les gens, les lecteurs, parce qu'il y a un côté naïf, entre guillemets, avec les dessins très colorés, et puis le côté très réaliste des documents, et au contraire, j'ai pensé dès le départ que ça donnerait une touche assez sympa au jeu.
Oui, ça se répond bien en fait. À l'époque, les gens, eux, ils étaient pas vieux. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça s'est passé il y a longtemps que les gens étaient en noir et blanc. Au contraire, c'était même les années. Je crois que c'est la belle époque qu'on appelait ça.
Eh oui.
La belle époque, et la belle époque, c'est une période de, au contraire, de fête où les gens avaient des costumes très très colorés, étaient très vivants.
Enfin, l'avant-guerre, bon, oui, exact.
Voilà. Donc, c'est très bien. Maintenant, c'est ton troisième jeu. Au niveau création, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un auteur, à des gens?
Alors. Je dirais de jouer un maximum de jeux. Parfois, j'ai en boutique des gens sur des festivals qui viennent me dire, je m'aperçois que parfois ils osent pas forcément jouer de peur d'avoir d'être trop inspiré des autres. Je trouve au contraire que c'est vraiment en jouant au maximum aux jeux des autres que les idées s'entrechoquent dans la tête. Ça ouvre beaucoup de portes. Après. Pour un auteur de jeu, certains viennent me trouver, ou j'en ai parlé parfois avec d'autres collègues, que beaucoup d'auteurs de jeu ne laissent pas beaucoup de place à l'éditeur. Ils viennent avec des maquettes qui sont vraiment super achevées et tout ça, et que on sent bien parfois dans les conversations qu'ils sont pas toujours ouverts à l'idée de modifier pas mal de choses. Et moi, je voudrais juste leur dire que un éditeur a sa propre équipe, il a ses habitudes, il a ses propres cahiers des charges et tout ça, donc oui... Ne pas hésiter à laisser de la place à l'éditeur aussi pour qu'il ait envie de faire équipe avec vous.
Oui, qu'il ait l'impression qu'il ait quelque chose à faire, quoi, aussi.
Oh oui, parce que je peux vous dire que c'est un gros travail, c'est une grosse prise de risque aussi, l'édition. Du coup, venir avec un produit bien abouti,
voilà.
Suffisamment pour aller chez quelqu'un, mais faites comprendre que ensuite c'est du travail de l'éditeur et que vous le comprenez parfaitement.
Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on voit des gens des fois aussi qui arrivent avec un jeu, ils ont déjà fait travailler un illustrateur ou un copain qui fait du dessin, et le problème c'est qu'ils arrivent à un jeu qui est presque déjà illustré, mais en même temps, comme c'est un copain, ça n'a pas été non plus forcément assez loin, c'est pas assez professionnel, et du coup c'est pas évident pour eux en tant qu'auteur, parce qu'ils ont fait travailler un copain, et en fait ces illustrations-là ont quasiment aucune chance d'être dans le jeu définitif s'ils passent par un éditeur, et du coup je pense que ça les met en porte-à-faux, je pense que c'est une erreur à pas faire.
Ben je partage hein, parce que j'en vois circuler pas mal, et voilà, c'est parfois une petite erreur, oui.
Ouais. Je pense qu'il vaut mieux recourir à, tant pis, à des cliparts, à des recherches d'images. Il y a un site aussi qui est très connu pour les icônes de jeux qui s'appelle gameicone.net, sur lequel on trouve des petites icônes noires et blancs qui peuvent être utilisées facilement pour des protos. D'ailleurs, c'est vraiment très connu des auteurs. Et je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de commencer à embarquer des gens qui, malheureusement, ne seront pas forcément au bout de l'aventure si le jeu est repris par un éditeur.
Exactement. De toute manière, ils ne seront pas récompensés parce que c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, si l'éditeur est tenté, il va reprendre les choses en main à sa façon.
Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la partie création-écriture. On va maintenant parler de la partie ululée, donc financement participatif, comme on dit en français. La première question, évidemment, c'est pourquoi, Pascal, passer par une campagne de financement?
La première raison, vraiment, le financement. C'est vrai que, mine de rien, c'est un système un peu de prévente. Du coup, ça aide beaucoup. Ça apporte une visibilité financière. On voit un petit peu où on en est.
Pour parler concret, sans donner peut-être le chiffre exact, mais pour que les gens se rendent compte, le coût d'impression d'un tel livre, c'est combien?
Rien que le coût d'impression, ça va vite chercher dans les 3000 euros à peu près, et plus si on va chercher dans des finitions un peu prestige, avec des effets particuliers sur la couverture, des couvertures rigides, voilà. La couleur et autres.
Bon, à cela, il faut évidemment rémunérer les gens qui travaillent avec toi, les illustrateurs.
Sophie et Silver, donc là je vais être un peu plus discret sur leur rémunération. En fait,
bien sûr.
L'idée, c'est que sur un financement de 10 000 euros qui est demandé sur Ulule, c'est pas du tout suffisant pour financer le jeu. Donc, ça m'apporte de la trésorerie, mais après, il va falloir, moi, que je rajoute de ma poche. Parce que sur 10 000 euros, une fois qu'on a enlevé la TVA, la commission Ulule, les chèques cadeaux que j'offre, valables chez Philibert, après, il va payer tous les intervenants. Les illustrations, le fabricant, c'est vrai que 10 000 euros ne couvrent absolument pas tous ces frais.
Voilà. Ensuite, tu voulais dire avant que tu avais choisi un financement de participatif pour deux raisons, donc le côté financier qu'on vient de voir, mais aussi...
Aussi la communication.
Voilà.
Première pierre de la communication, ça permet de parler du jeu bien en amont, peut-être fédérer un petit groupe autour de l'actualité de petits joueurs, peut-être que ces gens aussi nous suivront aussi pour les futurs jeux. Donc c'est clair que c'est ce qui m'avait fait défaut pour les deux premiers jeux. Bah, Ulule et le financement participatif m'a l'air très intéressant. Ensuite, ça permet même de faire un peu de bruit autour du jeu,
okay,
pour peut-être plus tard faciliter l'implantation du jeu dans les boutiques en automne.
D'accord. Alors pourquoi avoir choisi la plateforme française donc, pour, plutôt que celle, la fameuse plateforme américaine qui a d'ailleurs lancé le mouvement Kickstarter?
Alors quand j'ai commencé à m'y intéresser après les deux premiers jeux, Ulule était en français. C'était pas encore le cas à l'époque de Kickstarter qui uniquement en anglais. Je me suis aperçu après quelques recherches que le taux de réussite d'Ulule était aussi plus important que Kickstarter pour en tout cas les projets qui n'avaient pas de support anglo-saxon. Et comme moi, mon jeu, dans un premier temps, ne sera pas traduit,
d'accord,
tout de suite en tout cas, c'est vrai que pour la communauté française, j'ai préféré Ulule.
Okay.
Ça m'a semblé plus pertinent. Un autre point, c'est que très tôt, je me suis mis à interroger les équipes en question, poser des questions pour préparer comme il faut en amont, parce qu'il faut énormément travailler ça en amont.
Ah d'accord, tu veux dire que tu as sollicité les gens d'Ulule?
Très très tôt. Et du coup,
d'accord,
une relation s'est mise en place. Je les apprécie, ils sont très réactifs, de bons conseils, de bonne humeur.
Ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément quand ils souscrivent, eux, quand ils sont souscripteurs, consommateurs.
Oui.
C'est qu'en fait, les gens de ces plateformes, ce n'est pas juste une plateforme où on s'inscrit et on est tout seul. Ce sont des gens aussi qui font du conseil en amont, que tu peux appeler, que tu peux avoir au téléphone ou qui répondent à tes questions par mail. C'est ça que tu es en train de dire.
Exactement. Et je peux vous dire que donc, sur ce site Ulule, ils sont extrêmement réactifs. Actuellement, j'ai toujours affaire à Jean. Il y a toujours qu'une seule personne qui gère mon dossier. Alors du coup, ben c'est très facile parce qu'il sait très exactement où j'en suis. Il m'a aidé pour les contreparties ou autres. Donc au moment où j'ai dû choisir un choix...
Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu t'inscris, tu as quelqu'un qui te contacte pour t'aider?
Oui, il y a un fil
de discussion. Finalement ton conseiller pendant toute la durée de la campagne,
exactement,
c'est ça?
Exactement, il y a un fil de discussion qui se pose sur Internet, une sorte de chat, et puis il peut vérifier, je lui demande des avis, des questions, je lui demande ce qu'il en est de mes contreparties actuellement, il me dit ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait revoir, ce qui est très bien. Donc on est vraiment guidé, orienté, et les conseils, je pense qu'il faut vraiment les suivre, parce que dans tous les retours que j'ai eu d'autres porteurs de projets sur ces sites-là, le point commun, c'est qu'ils m'ont dit, au final, même quand on a un doute, non, il faut les suivre. Il faut suivre ses conseils.
C'est rigolo parce que c'est quelque chose moi personnellement, dont j'avais pas trop entendu parler, qu'on avait un vrai suivi et du conseil.
Alors, quand j'ai fait ça durant 6 mois, ils ont été très patients parce qu'ils ont fait ça sans être même sûr que j'allais me lancer. Au moment de me lancer, évidemment, j'ai continué avec eux, j'ai pas fait ailleurs.
Alors justement, c'est avec eux, comment tu as eu à choisir en fait les indispensables, ce qu'on appelle les paliers de la campagne, c'est-à-dire les récompenses que les souscripteurs obtiennent
Alors là, c'était un peu un casse-tête, hein, Stéphane, de mon côté, parce que d'un côté, j'ai très vite identifié 2 paliers importants. Le premier, celui en dessous duquel le jeu ne pouvait pas se faire, en tout cas, pas dans les mêmes délais, pas aussi vite. C'était le premier palier à 10 000 euros qui donne droit au jeu. Et ensuite, un deuxième palier plus conséquent à 20 000, si on veut une édition un peu plus prestigieuse, choix du papier, couverture rigide et autres. Alors, ça ne veut pas dire que le premier palier n'est pas de qualité, bien au contraire, mais c'est juste une couverture rigide. Ça coûte extrêmement cher dans les livres. Le hic qui s'est posé pour moi dans le choix des paliers, c'était que hormis faire un compromis sur l'épaisseur de la couverture, je ne voulais pas en faire à l'intérieur du livre. Je ne voulais pas dire au souscripteur, si vous voulez de la couleur, il faut atteindre tel ou tel palier, ou si vous voulez un petit chapitre culturel, parce que j'en aurai un dans le jeu, il faut atteindre tel autre palier. Non.
Oui, tu voulais pas commencer à décomposer ton jeu comme un espèce de kit
Absolument pas, parce qu'il aurait été hors de question pour moi, parce que en toute franchise, sur 10 000 euros, je peux le faire. Alors, pourquoi ne pas le proposer sur 10 000 euros et pourquoi atteindre 15 000 ?
Tout à fait.
Et admettons que je n'aurais pas atteint ce palier intermédiaire, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais envoyé les fichiers en noir et blanc ?
Ouais, ça ressemble
hors
à rien.
De question. Du coup, non, j'ai été réglo, j'ai tout fait sur le premier palier. D'où le hic. Qu'est-ce que je propose comme palier intermédiaire ? J'ai voulu aller au plus simple parce que durant tout ce temps, j'ai préparé ce jeu. Moi, j'ai vérifié, j'ai regardé attentivement ce qu'on proposait sur d'autres campagnes et je ne voulais pas m'engager dans une course à l'armement, entre guillemets, à proposer des goodies toujours plus compliqués à produire, qui prennent autant de temps qu'à réaliser le jeu. J'ai voulu quelque chose de plus simple. Mm-hmm. Du coup, j'ai vu ça avec un partenaire. J'ai proposé ça à Philibert. J'ai voulu redistribuer simplement une partie de la collecte aux souscripteurs. Ça va se faire sous forme de chèque cadeau que l'on va joindre un peu de manière aléatoire, hein, la surprise, au fur et à mesure des paliers.
Alors, il faut dire pour bien comprendre que de toute façon, c'est Philibert qui enverra les jeux souscrits.
C'est eux qui envoient tout. Ils s'occuperont, ils assurent les envois, ils envoient ça à domicile, ils s'occupent de la logistique. Moi, ça m'enlève une grosse partie parce que c'est pas mon cœur de métier, ceci. Alors que eux, c'est des pros.
Voilà. Alors, de toute façon, nos auditeurs connaissent bien Philibert. C'est notre parrain cette année. Donc, philibert.net, une boutique en dur à Strasbourg et un des premiers sites marchands en jeux de société. Et donc, effectivement, eux, ils savent ce que c'est que d'envoyer des cartons avec des jeux dedans. Il n'y a pas de souci.
Oui, puis j'étais assez content quand je leur ai soumis l'idée des chèques cadeaux, d'être en partenariat, quand ils ont vu le projet d'énigmes et autres. Ouais, ça les a branchés. Du coup, ils m'ont mis, oui, dans quelques newsletters, ils en parlent sur leurs réseaux sociaux. Je suis content.
Ouais, c'est des gens qui sont habitués de toute façon à soutenir ce genre de projet. Hein. Ils l'ont fait pour d'autres,
très sympa.
D'autres financements participatifs. C'est très sympa de leur part. Ils sont très impliqués aussi dans ce genre de choses, alors qu'ils pourraient juste se contenter de vivre de leur vente. Et c'est vraiment très, très agréable et très sympa de leur part. On va enchaîner justement avec tout ce qui est donc petite récompense que tu donnes aux gens. Tu vois quelque chose d'autre à ajouter, non ?
Sur les contreparties Ulule, chacun aura son nom aussi, hein, son nom, son pseudonyme, ce qu'il voudra dans la liste des remerciements. Mais on va pas simplement faire une petite liste de remerciements. On va mettre quelques pages à la fin avec le nom de toutes ces personnes. Et ça va reproduire la liste des invités, de tous les participants du spectacle de Rosemary à l'époque, donc en 1914. Et vous serez attablé ou assis autour des personnalités de l'époque. Donc à côté de vos noms, bah, seront intercalés les Einstein, les Picasso, les politiciens de l'époque. Donc il y aura une liste de remerciements, mais un peu mise en forme, pour vous intégrer complètement à l'histoire de Rosemary.
C'est pas juste un listing à la fin, c'est vraiment, on fait partie finalement de
Ah oui, oui, Silver va travailler sur la mise en page de tout ça, donc je pense que ça va être assez chouette, assez original, et sinon... comme petit goodies, petite enveloppe assez chouette, plutôt jolie, dédicacée de la part de Rosemary, où vous recevrez à l'intérieur, à votre nom personnel, une invitation, une fausse invitation, mais pour le spectacle de l'époque, hein, de toute manière vous serez forcément en retard, il s'est passé il y a un siècle, plus un petit ex-libris de l'affiche du spectacle et le tout dédicacé par Rosemary.
C'est sympa. C'était pas évident de parler du jeu. Parce que en fait, bon, ça reste un jeu d'énigmes, donc faut pas tout dévoiler. Je pense que tu as à peu près résolu ça en mettant un petit peu le brief de départ, en mettant des éléments du jeu. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand même, entre guillemets, de vendre un jeu auquel on peut même pas faire une partie d'essai finalement, contrairement à un jeu de société, quoi.
Non, effectivement, c'est un peu l'objet de réflexion de ma part. Et au final, comme tu dis, j'ai pris le parti de ne pas tourner autour du pot. Donc j'explique ce dont il s'agit, l'énigme, l'absence de solution dans le livret en tout cas. J'ai pris le parti aussi de bien présenter l'intrigue, quand ça se passe, les personnages, le lieu, un petit peu ce qui s'est passé, et d'appuyer ce discours-là avec des premiers visuels du jeu, notamment la lettre de mission qui oriente déjà l'histoire. Après, pour le jeu en lui-même, bah, mine de rien, je pense que quand les gens l'auront entre les mains, avec le dos de couverture et autres, ils en sont autant, si ce n'est plus, du jeu en lui-même, du fonctionnement, que sur beaucoup trop d'autres jeux aujourd'hui. Quand on lit les boîtes au dos, c'est vrai que on n'est pas toujours très très bien aiguillé. Et ben du coup, avec le cri de Rosemary, je me dis que les gens n'auront peut-être pas un aperçu de l'intrigue, mais ils comprendront parfaitement le fonctionnement du jeu dès le début, rien qu'en lisant le dos de la couverture ou en lisant ma page Ulule. Ils auront déjà un bon aperçu de l'intrigue, dans quoi ils vont mettre les pieds.
Oui, parce que finalement, oui, c'est pas un jeu dont les mécanismes, enfin, il n'y a pas de mécanisme compliqué.
Non, hein,
c'est,
non,
y a rien
exact.
Du tout à ce niveau-là, c'est l'intrigue, elle est ailleurs, quoi. Le plaisir, il est dans l'enquête, quoi. Donc, effectivement, finalement, par rapport à d'autres jeux, il n'y a pas de surprise, en fait, c'est vrai. Enfin, pas de surprise entre le jeu qu'on croit acheter puis le vrai jeu, puisque finalement c'est il y a pas de mystère dans le mécanisme en
Non,
fait. Mystère, il est ailleurs,
le
il est dans
mystère
le...
sera ailleurs et l'objectif pour nous ensuite, c'est d'attiser la curiosité.
Donc on a parlé un petit peu des problèmes de la création de du financement, de faire des choses, enfin d'avoir de se lancer dans une campagne. Est-ce que tu confirmes toi de ton côté qu'effectivement c'est émotionnellement aussi c'est dur, c'est beaucoup de travail, mais est-ce que enfin moi j'ai souvent entendu parler que pour les auteurs c'était pas évident de répondre, d'être présent partout, de gérer justement de la com, des questions, etc. Et on a l'impression qu'on est sursollicité à ce moment-là. Enfin, je connais des gens qui ont fait et qui m'ont dit ils sont sortis mais complètement épuisés d'un mois de campagne de financement. Tu confirmes ce genre d'impression?
Ouais, je partage complètement. Pourtant, je me suis préparé, puisque j'ai préparé cette campagne Ulule bien en amont. Avec Ulule, ils m'ont prévenu, et une fois qu'on y est, eh ben, c'est le cas, hein. On compte pas ses heures, c'est stressant, parce que, bon, j'ai déjà une entreprise, donc j'ai des objectifs, et puis... Mais là, j'ai l'impression que l'enjeu est important, dans un délai assez court, relativement, puisqu'il y a vraiment une deadline. Ulule, ça marche ou ça marche pas, hein, c'est ça le fonctionnement. Bah, dès le premier jour, on a un peu l'impression d'être installé sur une montagne russe qui dévale, ça monte, ça descend. Mais ce qui est stressant en fait, c'est que la plus grosse démontée sur cette montagne russe n'est pas au début, mais à la fin. On a l'impression qu'il faut garder un maximum d'énergie pour atteindre cette dernière montée qui se situe à la fin, sans quoi le projet s'arrête et on n'a pas l'argent.
Mais c'est lié à quoi? C'est lié au côté un peu temps réel? Comment ça se passe? On reçoit des mails dès qu'il y a quelqu'un qui
Je
souscrit
prends la peine de faire un petit mot de remerciement à chaque participant. Il faut essayer de faire du mailing, mais du mailing personnalisé aussi. Après, il y a du mailing en groupe. Il va falloir essayer de solliciter, d'ouvrir des portes ailleurs. Tu en es un très bon exemple. Et tout ça, ça demande énormément de temps et de stress parce que, on envoie des sollicitations, ça répond pas forcément tout de suite, il faut tout coordonner, le temps passe,
Ouais.
et puis,
Ça fait beaucoup,
ça fait
ouais. On a beau
beaucoup.
avoir prévu des choses, en fait, on se rend compte qu'on est pris dans un maelstrom de sollicitations ou de choses différentes. Et puis, moi, ce
Exactement.
que je voulais parler aussi, c'est que le fait que les gens, quand ils communiquent maintenant via Internet, dans des zones de commentaires, dans des forums, ils s'attendent quand même à des réponses
Ah oui.
presque immédiates, quoi. On est dans le stress de l'immédiat.
Il faut être très réactif et c'est vrai que les gens ne peuvent pas forcément comprendre que on ne soit pas disponible à tout moment alors que pourtant on est censé porter le projet. Mais c'est vrai que à côté du projet, reste la boutique à faire tourner, le jeu à faire progresser. Donc je travaille dessus avec Sophie Silver. Max, heureusement, m'aide à tout ce qui est communication, les réseaux sociaux, Ulule et autres. Faut être un peu partout à la fois. C'est assez dur à être réactif. Là, par exemple, je rencontre un souci là actuellement, moi-même, sur ma campagne. C'est que, en tout et pour tout, je n'ai fait qu'une news sur les 10 premiers jours de la campagne Ulule. Et moi-même, je trouve ça hallucinant parce que tellement c'était une priorité pour moi. Aujourd'hui et ce week-end, ça va être l'objet, atteindre un rythme de croisière plus rapide sur ces news Ulule. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir chômé. C'est juste que entre ce qu'on programme et les urgences qui arrivent et qu'il faut traiter comme des urgences, on se fait déborder, tout simplement.
Et ça, je sais pas si les gens se rendent bien compte un peu du marathon que ça doit être. En tout cas, voilà. Ce que je trouve aussi, enfin, ce que je constate également, c'est que tout ça, finalement, c'est du marketing, c'est de la communication. Au départ, le financement participatif, c'était censé être un outil pour les auteurs, bon, ça l'est toujours, mais je trouve que on assiste en ce moment, justement, à une sorte de dérive dans le sens où ça devient le financement participatif un véritable outil marketing géré par des professionnels du marketing de ce type-là, donc du marketing crowdfunding. Et puis finalement, l'auteur dans tout ça, il devient un peu loin, dans ton cas évidemment, où tu es une petite équipe, donc c'est toi qui t'en occupes directement. Mais c'est vrai qu'on a vu des grosses sociétés arriver et puis proposer du conseil ou alors carrément avoir des gens spécialisés dans ce genre de campagne. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Effectivement, il y a des grosses pointures, oui. Maintenant, j'ai peut-être pas ta connaissance de tous ces réseaux marketing, de grosses sociétés qui peuvent proposer leurs services et ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent l'objet de discussions dans ma boutique. Comme quoi Ulule et autres Kickstarter seraient faits au départ dans l'esprit pour mettre le pied à l'étrier à de petits. Et il y a de plus en plus de sociétés ou de gros éditeurs qui effectivement peuvent aussi passer par ces réseaux-là. Bon, dans l'absolu, ça reste des entreprises. Je pense que ça fait aussi les affaires d'Ulule. Maintenant, moi, j'essaie de voir le bon côté. Je me dis que peut-être que ces grosses sociétés amènent un nouveau public sur ces sites de financement participatif. Dans l'absolu, oui, je pense que de plus en plus d'entreprises, en tout cas de gens bien installés déjà qui n'en auraient pas forcément besoin, vont quand même faire appel à ces sites-là parce que ça va complètement contribuer à leur communication, promouvoir le jeu avant même la sortie du produit dans les boutiques. Je suis pas sûr, Stéphane, que ces sites vont faire marche arrière là-dessus, et moi je pense même que ça va aller en accélérant. Hein.
Ah oui, non.
Non, complètement. En tant que boutique, je commence à voir parfois les effets un peu pénalisants, plus sur le jeu de rôle que sur les jeux de société, pour l'instant. Parce que si je prends par exemple une aussi grosse licence que l'Appel de Cthulhu, sans détour qui font des super travail, hein. Je trouve ça vraiment remarquable la manière dont ils gèrent leur campagne et tout, je ne peux que les féliciter. Par contre, le revers de la médaille, c'est que en boutique, les jeux de rôle qui marchent en crowdfunding, je n'en vends plus en boutique.
Ah oui.
Et aussi invraisemblable que ça puisse être, une licence comme la V7, la version 7 de l'Appel de Cthulhu, j'en ai vendu en quantité minuscule pour un jeu de cet acabit. Pourquoi ? Parce que bon.
Ah oui. Donc malheureusement, le succès de leur campagne.
Oui, ça vampirise les ventes. Ça reste quand même une niche de marché. Et moi, j'ai plein de clients fidèles qui m'ont quand même dit que pour avoir les goodies ou autres, l'ont pris là. Donc forcément, toutes les autres campagnes à suivre aussi. Pas encore en milieu du jeu de société, parce que dans ma boutique, j'ai encore plein de personnes qui ne vont pas sur Ulule et autres. Les jeux qui marchent en crowdfunding sur les jeux de société qui marchent sur ces sites-là marcheront quand même dans ma boutique. Mais la question, c'est que tôt ou tard, je pense que oui, ça va finir par vampiriser de plus en plus. En tout cas, moi, maintenant, pour les jeux de rôle, s'il y a un jeu de rôle qui marche en crowdfunding, je le prends plus en boutique.
Ça a quand même des conséquences immédiates, hein. C'est fou.
Oui.
C'est vrai qu'on pourrait croire que le marché augmente toujours, puis en fait, non, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on prend des parts quelque part, en fait. Le gâteau peut pas augmenter à l'infini, gonfler à l'infini.
Oui, c'est... Oui.
Ok. Est-ce que, justement, ce serait pas la solution aussi, c'est d'associer des boutiques au crowdfunding, parce que finalement, faut récupérer sa boîte à un moment donné, faut récupérer sa commande, et bon, il y a aussi des possibilités peut-être aussi de s'associer à ce genre de choses en étant le lieu où on va aller chercher la boîte, et finalement la boutique est partie prenante à ce moment-là dans le réseau de distribution.
Ça peut être clairement une solution, ça peut vraiment l'être. Se posera toujours un problème du crowdfunding, c'est que même si on redistribue une partie de la collecte, une partie de l'argent aux boutiques en allant les faire livrer là-bas, dans ce cas-là, ça se fera au détriment du distributeur.
Et voilà.
Parce que si moi-même j'envoie la marchandise à la boutique sans passer par mon distributeur, je fais l'économie et la boutique se fait l'économie de la part du distributeur. Si je l'envoie au distributeur pour que eux l'envoient ensuite aux boutiques et que les souscripteurs d'Ulule viennent les chercher, c'est faisable aussi. Le hic, c'est que moi j'ai fait les calculs. C'est plus 10 000 euros qu'il faut demander, c'est 5-6 fois plus. Pourquoi ? Parce que si en plus il faut reverser la part légitime de la boutique ou une part plus une part au distributeur, c'est tout le modèle économique qui a encore une fois changé. C'est-à-dire que là, ce n'est plus de 10 000 euros dont j'aurais eu besoin, mais de 5 fois plus, quoi.
Et ouais.
Alors, si je veux atteindre un objectif atteignable, parce qu'encore une fois, sur Ulule, c'est tout ou rien, admettons 10 000 euros, ça m'oblige à un modèle économique différent de quand j'envoie mon stock à mon distributeur qui lui-même le redistribue ensuite aux boutiques. Pour 10 000 euros, il faut enlever des intermédiaires. Ben voilà, ça fait mal à quelqu'un. Donc moi, en tant que le boutique, je le vis, je le ressens. Le problème, c'est que décemment, pour une première campagne, je ne peux pas demander un objectif de 50 ou 60 000 euros. C'est inatteignable.
Pas sur un premier projet, non, c'est sûr. Ok, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Est-ce que tu as encore un commentaire peut-être à répondre qui t'a été fait sur la campagne ou auquel tu voudrais répondre maintenant ?
J'ai eu des gens qui ont apprécié le côté un peu innovant du produit, cette absence de solution, et le mot qui était revenu innovant, je voulais dire à cette personne qu'il se peut, si ça marche, je crois que c'est une voie que j'ai envie de suivre avec petits joueurs et que mes autres jeux, en tout cas mes deux prochains que j'ai en tête, qui seront pas forcément la suite directe, c'est pas forcément une autre enquête, mais de nouveaux jeux seront aussi assez innovant et assez surprenant. Donc il y aura des pour, il y aura des contre, il y aura des détracteurs, mais j'ai envie de conduire ces projets parce que je les trouve moi-même intrigants. Et l'avantage donc de passer par des financements participatifs, c'est que j'espère que ça puisse amener des éditeurs à prendre une petite part de risque supplémentaire, une petite part d'audace supplémentaire, parce que comme il s'agit de prévente et qu'on a une certaine visibilité financière avant même la sortie du jeu, ça nous permet donc, j'ose espérer à l'avenir, de prendre un peu plus de risques, voire même sur certains concepts de jeu.
Oui, normalement ça sert à ça le risque, à créer des choses qui pourraient pas exister autrement. Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour convaincre les indécis de te rejoindre sur la campagne du Cri de Rosemary sur Ulule?
Alors écoutez, je pense que si je parle au nom de Max, de Silver, de Sophie et de moi-même, on a franchement fait du bon boulot. Le produit, il est joli, il est original, il est ambitieux, il est audacieux, l'équipe est sympa. En plus, c'est Rosemary, il faut pas oublier que c'était une star internationale à l'époque. Si vous avez un doute sur l'intrigue et
autres... C'est un personnage fictif ou c'est vraiment une
fictif? C'est complètement fictif et en plus, j'ai une grosse anecdote sur Rosemary. Je pourrais même finir là-dessus si tu veux. Vous pourrez le prêter à des gens autour de vous. Vous pourrez faire ça, l'intrigue, avec vos enfants, avec vos conjoints et autres. Ce serait vraiment dommage de se priver d'un petit concept intéressant et parfaitement accessible.
D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote?
En fait, c'était sur le choix du prénom Rosemary. Tout le monde dans l'équipe s'est complètement creusé la tête. On a regardé les listes des prénoms, les prénoms de l'époque, qu'est-ce qui pouvait aller. On avait vu Rose dans un coin, on avait vu Marie et plein d'autres choses. Impossible à se mettre d'accord et j'étais absolument pas satisfait. Du coup, le plan B, c'était le titre le cri du rossignol. Mm-hmm. Parce que ça se passe au Castafiore, c'est un petit clin d'œil à Bianca Castafiore, à Tintin, donc le rossignol. Silver avait commencé à travailler sur le logo et ça m'embêtait vraiment parce qu'on n'en était pas du tout satisfait et on voyait la campagne, parce qu'il y a quand même des deadlines à respecter. Si on veut que le jeu sorte en automne, il fallait que la campagne se fasse maintenant ou plus tard. Quelques temps même avant la campagne, on n'avait même pas de logo. Or, pour faire une campagne, il nous faut des visuels. Le logo, la couverture, c'était un minimum. Du coup, au bout d'un moment, ras-le-bol, rien ne venait. En plus, en boutique, on pouvait pas me remplacer. J'étais pas trop heureux. J'arrive en boutique, cliente arrive et je lui demande son prénom, son nom pour la carte de fidélité, quoi. Mm-hmm. Et puis, Rosemary. Et là,
déclic.
Mais déclic en infraction de seconde. C'était parti. Ça ouvrait de nouveaux horizons. Je savais instantanément que ça allait être le cri de Rosemary. Et à partir de là, on a même modifié légèrement le projet d'un point de vue marketing, comme tu disais, parce que...
Oui, parce qu'on retrouve une rose sur le logo, je crois, entre autres, dans l'identité graphique.
Ah ben, complètement. La rose, les épines, tout d'un coup, le personnage avait un prénom, donc avait une vraie existence, et on s'est dit qu'on pouvait même recentrer la communication autour de ce personnage qui n'était pas forcément, c'était pas forcément le cas quelques semaines ou quelques mois même avant le début de la campagne.
Oui, parce que c'est pas elle qui se fait assassiner.
Non, c'est quelqu'un d'autre.
Hein. Du coup, ça, il y avait une mascotte. Tout d'un coup, il y avait une figure. Voilà, il y avait une figure qui représentait le produit.
C'était la mascotte. Il manquait une figure dans le jeu. Il manquait quelque chose. Il manquait le fil conducteur et au jeu et à l'histoire et à notre communication sur quoi nous allions tourner. Et ça s'est fait subitement. Un jour, je voulais absolument pas être en boutique parce que justement, je voulais être calme pour travailler là-dessus. Et puis j'abandonne, et puis comme quoi ça vient après.
Ah, des fois faut lâcher prise, faut laisser la vie t'envoyer des influx.
Mais bon, j'ai les coordonnées de cette personne, elle ne le sait pas encore, mais elle recevra par la poste un exemplaire du jeu.
Voilà, elle criera à son tour en disant « Oh, j'ai un exemplaire à mon nom ». Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu vois quelque chose à ajouter.
Non, écoute, en tout cas, je te remercie pour cette interview. Et puis encore une fois, je remercie Max, Sophie, Silver qui ont été très, très, très patients avec moi et qui, sans quoi, ni cette campagne, ni le jeu n'auraient pris forme.
Voilà, moi aussi, je voudrais remercier Max de Petit Joueur, donc qui a assuré la partie technique, en fait, l'enregistrement de ta voix à Metz, tandis que moi, je m'enregistre à Toulon. Pour cette espèce, on appelle ça un duplex. Hein, je crois que si on était au du temps de Léon Zitrone, on aurait dit on est en duplex.
Ouais.
Également retrouvé, il a fait des vidéos. Alors, il dit que c'est un petit peu vieux, mais moi, je trouve ça quand même intéressant. Donc, c'était une chaîne YouTube qui s'appelle Cartes sur table, sur laquelle vous retrouverez quelques petites présentations de jeux, notamment des jeux de Pascal Notre-Dame, notamment de Beautiful et puis de Jack Bananas.
Jack Bananas.
Et voilà. Eh bien, écoute, Pascal, ça a été un plaisir de t'avoir.
Eh ben, plaisir complètement partagé. Je te remercie beaucoup, Stéphane, pour cet entretien, ce duplex.
Voilà, c'est gentil. Bah, écoute, je souhaite un bon été à tous. Et puis, je sais pas si tu sais, Pascal, mais à la fin, on crie tous ensemble, jouez bien. Donc, je vais lancer le jingle de fin. Et donc, bon été, bon jeu, bonne campagne. Et d'ici là, jouez bien.
Bonjour. Ah, pardon. Ouais, s'il te plaît. Une première baffe.
Je laisse tourner ou il coupera ou...
Il coupera lui-même.
Ah, ok, ça marche.
Oui, le cri de Rosemary, c'est une enquête policière qui se... Putain, je me suis planté. Oh là là, ça y est, je recommence. Je peux aller dans la foulée là ? Oui, le cri de Rosemary, c'est un jeu d'enquête qui se présente sous la forme d'un livre-jeu. Ça se passe en 1914 à Paris et ça se passe dans l'univers de Rosemary, qui est une cantatrice de renommée internationale. Et elle prépare son dernier spectacle, le spectacle Rosemary chante. Et il se passe un terrible accident au moment de la répétition générale de ce spectacle. Et il faut savoir aussi que ces événements malheureux se passent la veille de la Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est bon. En remontant, je devrais y arriver.
C'était mieux tout à l'heure ? Ah, oui. Écoute, c'est à 5 secondes, je recommence. Hein. Oh là là, dis donc, une fois que je suis faussement naturel, moi je suis plus naturel. Le cri de Rosemary, c'est un jeu d'enquête qui se présente sous la forme d'un livre-jeu d'une soixantaine de pages, une grosse soixantaine de pages. Ça se passe en 1914, dans le vieux Paris, autour de Rosemary, qui est une célèbre cantatrice. Elle prépare son spectacle, le spectacle de la tournée Rosemary chante. C'est la répétition générale quand tout d'un coup se produit un terrible événement. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Sachez juste que c'est à vous d'enquêter et ça se passe à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est une intrigue policière.
C'est l'auto, mais dans le désordre.
Merci, j'ai tout mis dans le désordre. Voilà, bon.